tous, bienvenue sur Aligre FM, je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle émission à voix libre que j'aurai le plaisir d'animer chaque semaine avec Rassane Moubarak, conjointement à mon collègue Rassane Moubarak, un espace de parole pour évoquer notre société, mais aussi des questions de géopolitique. Il sera question notamment de droit international prochainement, mais j'ai choisi d'ouvrir cette saison avec une série consacrée à l'extrême danger, pour reprendre le titre du livre dont nous allons parler aujourd'hui. Cet extrême danger, c'est la montée de l'activisme de groupuscules d'extrême droite auxquels le journal Street Press consacre toute son attention depuis des années déjà, à travers une enquête qui a d'abord été publiée en ligne et qui est complétée par un livre publié aux éditions du Commun. Un collectif derrière cette enquête: Daphné Deschamps, Christophe-Cécile Garnier, Nicolas Lebourg, Mathieu Mollard, Johan Weiss, regard croisé de journalistes et d'historiens. C'est important pour prendre la mesure du temps long et des évolutions récente, à l'heure où en Allemagne les résultats des élections régionales ont crédité l'AfD, parti d'extrême droite, en Saxe-Anhalt de 43,8%, à l'heure où s'ouvre le procès de deux activistes d'extrême droite, dont Loïc Le Priol pour la mort du rugbyman Frédérico Martin Arambou le 19 mars 2022, il est temps de s'interroger sur la menace que constituent les groupuscules d'extrême droite à 8 mois d'une élection présidentielle en France. Mathieu Mollard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin dans ce studio d'Aligre FM et d'ouvrir donc ce nouveau magazine consacré à la politique, à la société. Alors, ce livre, c'est le résultat d'une enquête longue que Street Press mène depuis très longtemps sur les groupuscules d'extrême droite. C'est un peu votre fil de plomb. D'abord, un mot pour les auditrices et les auditeurs qui ne connaîtraient pas bien ce journal. Pouvez-vous nous le présenter en quelques mots ?
Street Press, c'est un média d'enquête, de reportage, de documentaire qui est entièrement en accès libre. Tout est en ligne, des enquêtes écrites sur notre site internet, des reportages, des documentaires sur notre chaîne YouTube. On peut aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Tout est gratuit et on vit grâce aux dons. C'est plus de 75% de nos revenus, des lecteurs qui croient à l'utilité, j'ai envie de dire de manière un peu présomptueuse, l'utilité publique ou l'intérêt général du travail qu'on fait, et qui nous font des dons. On enquête sur différents sujets, dont l'extrême droite. On a plusieurs journalistes qui sont spécialistes de ces questions-là. Et depuis maintenant plus de 10 ans, on travaille ces sujets. Que ce soit l'extrême droite extra-parlementaire, les groupuscules dont on va beaucoup parler aujourd'hui, mais aussi l'extrême droite parlementaire, ceux qui tentent de conquérir le pouvoir par les urnes, le Rassemblement National Reconquête, et bien sûr les liens qui lient ces deux façons de militer.
Alors, un travail d'investigation et aujourd'hui un livre que j'ai sous les yeux. Ce qui frappe immédiatement, c'est que dans le titre, le sous-titre plutôt, « Connaître et contrer l'extrême droite radicale », vous n'employez pas, sans doute à dessein, le mot d'ultra-droite qui a émergé il y a longtemps déjà, mais qui aujourd'hui fait partie de la terminologie usuelle pour dissocier un RN supposément en voie de dédiabolisation de ces groupuscules violents.
C'est effectivement un choix. Le terme d'ultra-droite, il a été forgé par la police. Parce que en France, on n'a pas de police politique. La police n'a pas le droit d'espionner les partis politiques. Mais par contre, elle a le droit de surveiller des groupuscules qui auraient potentiellement des desseins violents. Afin de marquer une différence entre ces groupuscules et les partis politiques, elle a créé la distinction extrême droite, ultra droite, extrême gauche, ultra gauche. Ça a du sens en droit, mais ça n'a pas de sens en histoire, en politique, en sociologie, parce qu'en fait, c'est une grande famille qui a des nuances. Ces nuances, c'est parfois les modes d'action, les façons de vouloir conquérir le pouvoir. Il y en a qui veulent faire une révolution, un coup d'État, d'autres qui veulent le conquérir par les urnes. C'est pas pour ça qu'idéologiquement ils sont forcément très différents. C'est une grande famille justement qu'on essaie de documenter dans ce livre.
Alors, au moment de la mort de Quentin de Règle l'année dernière, on a vu également émerger à nouveau, si tant est que d'ailleurs ce débat est totalement disparu, mais disons que ça a concentré à nouveau le débat autour d'un parallélisme entre la violence d'extrême gauche et la violence de l'ultra-droite ou de l'extrême droite. Que pensez-vous de ce parallèle parfois utilisé abondamment dans des médias mainstream ?
Moi, je tirerai jamais un trait égal entre la gauche, même la plus radicale, et l'extrême droite. D'abord, il y a une différence de nature. Il y a un camp qui se bat pour un monde le plus inclusif possible et l'autre qui se bat pour un monde excluant. Une épuration de la société, c'est la première chose. Ensuite, il y a d'un côté des gens qui tentent de défendre quelque chose face à des agresseurs. Il y a cette idée-là, même si ça, c'est plus subjectif. Ensuite, c'est pas pareil, mais là où il y a une réalité, c'est qu'il y a deux camps qui se disputent l'espace public. Et en fait, on voit dans les drames qui ont pu arriver par le passé, je pense aussi à la mort de militants antifascistes par le passé, c'est souvent un endroit, un espace public où une extrême droite tente de conquérir cet espace pour dire « la rue est à nous » et une gauche antifasciste qui tente de défendre cet espace public pour dire que la rue n'est pas cette extrême droite. Donc effectivement, à un moment, il va y avoir une confrontation pour se disputer cet espace public. Et il y a une violence des deux camps, c'est une réalité qu'il ne faut pas nier. Par contre, les modalités ne sont pas les mêmes et les motivations ne sont pas les mêmes non plus.
Alors, ce livre que vous publiez, c'est une enquête qui recense 320 groupuscules, si je ne me trompe pas.
320 sections locales.
C'est sections un peu, locales.
Ouais, c'est une nuance. C'est-à-dire que, en fait, il va y avoir des groupes qui vont avoir, je pense par exemple à l'Action française. C'est des royalistes, ils espèrent le retour du roi. Ils sont présents dans plein de villes en France. Donc, il va y avoir une section à Orléans, une autre à Paris. Et dans ces cas-là, on compte deux en section. Et par contre, il y a des groupuscules qui n'existent que à l'échelle locale, par exemple Quentin Dérand qui était membre des Allobroges Bourgoin, à Bourgoin-Jallieu, ben, ils n'existent qu'à Bourgoin-Jallieu, ils ne sont pas très nombreux.
Oui, alors quand le livre se présente sous forme de fiches, on pourrait dire, qui donne des informations très précises, qui sont très factuelles, le nombre de membres notamment, et les groupuscules sont classés dans des grandes familles, on pourrait dire, quatre, hein, donc on va en parler bien sûr. Vous commencez par les identitaires qui font beaucoup parler d'eux, les monarchistes dont vous venez de parler, et puis les nationalistes révolutionnaires. Et là, on entre dans une zone de confusion très intéressante.
Oui, après, c'est un terme un peu pompeux pour dire le retour du fascisme.
C'est ça. Et les confusionnistes. Alors, quand
il y a les catho-intégristes
et aussi. Et les catho-intégristes, bien sûr. Alors, lorsqu'on regarde, d'abord, on est frappé par la disparité des chiffres. Certains groupuscules comptent 10 membres, d'autres plusieurs milliers, c'est ça ? Quel est le dénominateur commun, s'il y en a un, ou les dénominateurs communs, malgré ces disparités de nombre et aussi d'implantation à l'échelle nationale ou locale ? Est-ce qu'il est possible de dégager un dénominateur commun à ces groupuscules ?
Oui, ils sont tous d'extrême droite. Et c'est une certaine vision du monde d'être d'extrême droite. C'est d'envisager la société comme un corps, comme le corps humain, de manière organique, et qu'il faudrait purifier ce corps de toutes les impuretés qui viennent de l'extérieur ou qui viennent de l'intérieur. Et donc, c'est s'opposer à l'immigration, la mixophobie, et aussi s'opposer aux déviances internes à notre société. J'utilise déviance avec des grands guillemets, qui seraient des comportements déviants, c'est-à-dire l'homosexualité, par exemple. C'est purifier la société. C'est le grand dénominateur commun, c'est de vouloir tendre vers une société pure.
Alors, Mathieu Mollard, on l'a dit, plusieurs familles. Un dénominateur commun, vous venez de l'expliquer, qui est en gros le rejet de toute forme d'altérité, de tout ce qui ne rentre pas dans une norme définie. Il y a pourtant, là encore, des différences très fortes entre des chapelles historiques, vous avez évoqué l'Action française, et d'autres plus récentes. Est-ce qu'il y a des liens déjà entre ces différentes structures? Est-ce qu'il y a une rivalité, une concurrence? Est-ce qu'il y a une convergence dans les luttes, entre guillemets, et
oui,
dans l'activisme?
Alors, les deux, il y a à la fois des liens et à la fois des rivalités. Avec le temps, et peut-être avec le pouvoir qui approche pour l'extrême droite, avec le RN, qui est un peu la maison commune, on en reparlera peut-être tout à l'heure, oui, de toutes ces familles, les différences ont tendance à s'estomper. Il y a eu pendant des décennies des rivalités très fortes entre les différents courants qui pouvaient même amener à des violences très fortes. Ça existe toujours, mais de manière plus ponctuelle. Et il y a à la fois des moments où ils se rassemblent, ce qui s'est passé après la mort de Quentin Deranc a été un exemple parfait. Quentin Deranc, qui était un militant nationaliste révolutionnaire, néo-fasciste, qui avait une pratique religieuse qu'il rattachait au catholicisme intégriste, est mort dans un événement où il était venu accompagné des militantes némésistes, qui sont des identitaires. Et après sa mort, il y a eu une union sacrée de tous les courants de l'extrême droite extra-parlementaire. La manif lyonnaise a été déposée par un couple. Lui est un militant néo-fasciste, elle est une catholique intégriste. La demande d'autorisation, et c'est même les organisateurs de la manif, ils n'ont pas seulement déposé la demande d'organisation. On a pu voir les têtes de proue de tous les courants d'extrême droite qui étaient présents à la manif lyonnaise ou aux différentes manifs en France, notamment à Paris. Donc il y a eu, c'était un moment d'union sacrée. Et en plus, depuis quelques années, on assiste à une forme de syncrétisme des courants. C'est-à-dire qu'avant, il y avait les identitaires, les néofascistes, les catholiques intégristes. Et au bout d'un moment, aujourd'hui, on voit de plus en plus des groupes où nous, on avait un peu du mal. Alors, on a gardé cette classification parce que ça permet de donner des clés de compréhension aux gens. Mais il y a des groupes qu'on avait du mal à classer et d'autres, ils sont très identitaires, mais ils reprennent quand même de plus en plus des codes néofascistes. On voit qu'il y a un mélange des genres.
Lesquels, par exemple ?
Par exemple, il y a eu des scissions de l'Action française à Rennes ou en Bretagne qui reprennent des codes néofascistes, qui vont prendre la croix celtique, qui est un symbole néofasciste, qui vont utiliser des codes esthétiques et même une pratique de la violence qui est plus courante chez les néofascistes. On va avoir des groupes nationalistes révolutionnaires dans le sud de la France qui, en même temps, vont revendiquer des choses qui sont plus identitaires et des thèses qui, à l'origine, sont identitaires aujourd'hui. Par exemple, le grand remplacement. Cette théorie qui a été mise en avant par Renaud Camus, qui dit qu'il y a une submersion migratoire de la France qui est en cours, qui vise à remplacer le peuple français dit de souche par des gens issus de diverses immigrations, et notamment arabo-musulmanes et d'Afrique subsaharienne. Cette théorie-là, qui est une théorie à la base identitaire, elle fait consensus à l'extrême droite. Plus personne la conteste. Il y a aussi des pratiques. Les identitaires étaient, il y a quelques décennies pour la plupart, néo-païens. Ils jugeaient que le catholicisme, c'était une religion trop gauchisante, qui avait un peu trop d'amour dans ces textes. Et aujourd'hui, ils sont presque tous convertis, y compris au sens premier de convertis. Il y a eu des baptêmes d'adultes chez les identitaires au catholicisme, parce qu'ils considèrent que c'est l'une des... qu'il y a un catholicisme culturel, quand bien même on ne serait pas pratiquant, il y a un catholicisme culturel qui est une brique de l'identité française. Après la manif pour tous, donc ces mobilisations qui ont fait suite à l'opposition aux lois du mariage pour tous, il y a eu une rencontre entre les militants identitaires qui étaient très structurés, très organisés, qui avaient l'expérience du militantisme, et des catholiques intégristes qui sont croisés dans les manifs, qui, pour citer un cadre identitaire qui m'a dit « on s'est retrouvés ensemble en garde à vue, ça a créé des liens ». Et ils ont, comme ça, créé, tissé ces réseaux-là, et on voit un groupuscule comme Academia Christiana, qui est aujourd'hui un des principaux groupuscules catholiques intégristes, ben il a été fondé par un ancien militant de Génération Identitaire.
Aligre FM 93.1.
Alors, est-ce qu'on assiste à une recrudescence des groupuscules, ou bien plutôt à une recrudescence de l'activisme avec, dans toute sa diversité, qui va de coups médiatiques destinés, de com destinés à faire le buzz. On peut penser à Némésis, qui est passé maître dans ses pratiques, par exemple, mais d'autres avant elle. Recrudescence donc des groupuscules, multiplication des groupuscules ou des pratiques d'activisme.
Un peu des deux. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. D'habitude, historiquement, on assistait à une balance entre quand l'extrême droite parlementaire se portait bien, l'extrême droite extra-parlementaire se portait moins bien. C'était tout simple. La logique, c'était de dire, bah voilà, quand du côté des élections ça marche, ça aspire les forces vives du côté électoral. Et quand ça va moins bien du côté électoral, ben on assiste à des dissensions. C'est assez général dans la vie politique, suivez mon regard. Quand un courant politique se porte moins bien, on assiste à un éclatement de ce courant-là. Et donc, ça renforçait le monde groupusculaire. Ça, c'est ce qui se passait historiquement. Aujourd'hui, on assiste à une période où il y a à la fois une extrême droite parlementaire qui se porte bien et une extrême droite extra-parlementaire qui se porte bien aussi, au sens où elle a beaucoup de militants. Et ensuite, bah, il y a eu, et c'est notamment un apport des identitaires, un renforcement d'une nouvelle pratique militante. Alors elle est de moins en moins nouvelle, puisqu'elle a commencé à être théorisée à la fin des années 60 par un courant intellectuel qu'on appelle la Nouvelle Droite, qui s'est inspiré de la gauche pour dire « la gauche, c'est militer, il faut qu'on fasse pareil ». Il faut à la fois qu'on crée des partis sur le modèle des partis de gauche, et notamment des partis trotskistes, etc. Et qu'on utilise plus tard les méthodes d'action et de communication de la gauche. Et par exemple, quand on parle avec des militants de Génération Identitaire, comme Damien Rieux, ils vont dire « notre modèle d'action, c'est Greenpeace ». On s'est dit « comment c'est possible qu'à 10, ils fassent le 20h, nous, on doit être capable de faire pareil ». Et donc, ils ont repris ces actions très symboliques en essayant d'expurger des actions la violence physique, parce que la violence physique fait que c'est traité au rayon des faits divers, que, en plus, tout de suite, ça donne une mauvaise image, même si ils acceptent parfois d'avoir une mauvaise image, c'est pas grave, tant qu'on parle d'eux, mais ils faisaient des actions coup de poing. Et donc, les actions coup de poing, ça va être... dérouler une banderole sur une mosquée à Poitiers parce que le symbole c'est le martel qui aurait bouté les Arabes hors de France en 734 à Poitiers. L'histoire est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est comme ça qu'elle est racontée. Ça va être un apéro saucisson pinard à la Goutte d'Or, qui est une histoire... Je peux en parler beaucoup, je prépare un livre sur... Enfin non, j'ai fini de l'écrire, il sort bientôt, un livre sur les identitaires. Donc je me suis pas mal penché sur cette histoire-là. L'apéro saucisson pinard, d'abord, c'est une page Facebook qui est créée, qui dit « Je suis une habitante de la Goutte d'Or, qui est un quartier populaire de Paris, Et je trouve que on ne peut plus, en tant que française, alors c'est pas écrit de souche, mais on peut plus boire de vin rouge, on peut plus bouffer de saucisson. Les musulmans ont conquis l'espace public, il y a des prières de rue, c'est pas acceptable. Je voudrais organiser un apéro de rue, c'était à l'époque où c'était la mode des apéros Facebook. J'ai organisé un apéro dans la rue pour montrer que voilà, les traditions françaises, au sens large... On convoque souvent les traditions françaises à l'extrême droite, existe encore. Sauf qu'en fait, très vite, on se rend compte que cette habitante de la Goutte d'Or, elle habite en Alsace, donc à 600 bornes de là. Donc c'est un coup monté, c'est une histoire, c'est un récit médiatique. Et il est débunké très vite. Mais qu'importe, ça crée une bulle médiatique. Il y a des dizaines et des dizaines d'articles de presse. À l'époque, c'est le début de ma pratique journalistique et je vais couvrir cet événement-là. Donc je fais partie des gens qui... Et les journalistes font bien leur travail. Ils disent « Oh là là, tout ça, c'est un coup de buzz de l'extrême droite. » Mais c'est un buzz aussi qu'on a construit. Parce qu'en fait, si on avait juste rien dit ou débunké une fois l'histoire sans faire des n'importe quoi, en fait, le truc serait retombé. Et ça crée l'idée aussi que il y a des gens qui pensent comme ça. C'est-à-dire que au moment de l'apéro saucisson pinard, il y a un édito de Yves Tréhard dans le Figaro qui dit « Oui, bon, c'est peut-être faux, cette histoire de la goutte d'or, mais quand même... Il y a des espaces où on n'a plus le droit d'être français chez soi et ce débat mérite d'être mené. » Et on va avoir des médias qui vont, en ayant le sentiment de bien faire leur travail, inviter un pour, un contre. Et donc, ça va créer l'idée qu'il y a une partie conséquente de la population qui trouve qu'il y a une conquête de l'espace public par... un islam offensif qui voudrait empêcher les gens, empêcher les femmes de ne pas porter le voile dans la rue, empêcher les gens de manger un sandwich au saucisson dans la rue. Enfin, mais c'est complètement artificiel. Ils ont créé ce débat et dans une espèce de fausse de mauvaise neutralité journalistique, un truc qui n'existe pas, bah les médias, y compris des médias de très grande audience, vont inviter un pour un contre et donner un espace un temps de parole énorme à une opinion qui est très marginal et qui a été totalement construit de toutes pièces, puisque bah oui, cet apéro, c'est un coup politique créé par un groupuscule militant. Et donc les identitaires, voilà, ils vont théoriser cette façon d'agir, et petit à petit, ces méthodes de communication bah, vont être utilisées par de plus en plus de groupes qui vont voir que ça marche, qui vont être formés aussi à des universités d'été, à des écoles, voilà, et qui vont apprendre à militer comme ça. Et donc, on voit de plus en plus aussi d'actions de ce type-là.
Avec un effet grossissant du traitement médiatique, donc, qui alimente le fantasme.
Parfois, enfin, c'est toujours... c'est dur de faire le tri, parce qu'à Street Press, on couvre au quotidien cette extrême droite. Mais il y a des sujets où on ne les traite pas. En fait... Des fois, quand ils sont deux à étendre une banderole à un endroit et il ne se passe rien, en fait, on n'en parle pas. On sait que ça existe. Des fois, on a les photos. Mais là, c'est vraiment leur service à la soupe de faire le coup de com' pur. Par contre, si l'action, soit elle révèle quelque chose de la société, de l'état de ces groupes, de leur organisation, il y a une nouveauté, ou alors qu'elle a un impact sur le vous avez parlé tout à l'heure des actions de Némésis à l'occasion, bah, ils font notamment à la grande manifestation annuelle de la défense des droits des femmes. Némésis s'est fait une spécialité depuis quelques années de venir et de réclamer le droit de manifester. Mais en fait, cette action qui est un happening de com, il fait évoluer tout le cortège. Il fait évoluer toute la... Et d'ailleurs, c'est leur force. C'est-à-dire qu'elles arrivent à polariser la discussion autour de ce sujet-là tous les ans, depuis 4-5 ans. Mais il y a une légitimité à en parler parce que les autres cortèges réagissent, se demandent comment il faut traiter. Ça fait évoluer leur environnement et la société plus largement. Par contre... quand elle déploie une banderole dans une université quelconque et qu'il ne se passe rien, on n'en parle pas.
Une manière aussi de peser sur les élections à venir, depuis que le RN est dit en bonne position pour accéder au pouvoir, est-ce que c'est une manière aussi de rappeler aux responsables du RN, notamment Marine Le Pen, qui prend régulièrement ses distances vis-à-vis, en tout cas, d'actions violentes, qu'il pèse aussi dans le débat.
Oui, alors il y a une tension avec le RN qui va dans deux sens. À la fois, d'une certaine manière, il travaille, pas forcément de manière avec un ordre en disant fais ça, même si ça peut arriver, pour eux, notamment en ouvrant la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire quand un Jean-Yves Le Gallou, qui est un ancien cadre du Front National, qui a été le directeur du premier groupe Front National à l'Assemblée Nationale et qui aujourd'hui est le chantre de la remigration, qui est en gros une théorie, un projet politique qui vise à dire qu'il faut déporter des centaines de milliers de personnes parce que d'origine étrangère. En fait, lui le dit, il dit c'est à la fois un mythe mobilisateur pour notre camp et c'est aussi une façon de radicaliser le débat pour que Marine Le Pen passe pour une modérée. Et ça, il l'assume, ils l'ont théorisé, il le dit. Moi, j'ai discuté avec lui, il assume ça.
Mais il y a aussi, pardonnez-moi Mathieu Mollard de vous interrompre, des membres de groupuscules qui ont pris leur distance réellement avec le RN et qui sont plutôt du côté, au moment où Zemmour avait, semble-t-il, le vent en poupe, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais du côté de Zemmour et de Knafo.
Oui, parce
et
que
de Sarah Knafo.
Bah oui, parce que dans leur discours, ils assument beaucoup plus. Zemmour assume plus ouvertement sa radicalité, donc ça leur partait l'air un peu plus. Mais dans un second tour, ils choisissent. Enfin, c'est le principe du premier et du second tour. Le premier tour, on choisit en fonction du cœur, et le deuxième, on choisit en fonction de ce qui est présent. Et il se passe ça. Et puis, il y a de temps en temps une rivalité. Il y a tout un tas de gens qui considèrent que le Rassemblement National est trop modéré sur certains sujets, trop consensuel. Ça peut être sur des questions notamment de droits des personnes LGBT. Ça peut être pour d'autres sur la question de la place des femmes, sur l'avortement, ou sur des questions plus économiques. Il y a une partie de l'extrême droite qui est très libérale et Marine Le Pen a un discours plus étatiste. Voilà, donc selon les courants, ils vont avoir des reproches à faire au Rassemblement National. Mais en même temps, à la fin, ceux qui votent, parce qu'ils ne votent pas tous, vont voter quand même au second tour pour le Rassemblement National. Et
S'il est au second tour,
il l'a été un certain nombre de fois, donc ils ont eu l'occasion de le faire. Donc voilà. Mais on va voir par exemple qu'il y a une histoire qui est assez marquante, c'est qu'au soir des élections européennes, Emmanuel Macron, on le sait tous, annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Et là, dans les rues de Paris, il y a des militants néofascistes qui vont agresser un homme parce qu'il pense qu'il est homosexuel. Et en garde à vue, l'un des militants du GUD, groupe Union du Défense, qui est le groupuscule néofasciste le plus connu de France, qui sont donc des néofascistes, va dire « Vous verrez, quand Jordan Bardella sera au pouvoir, on pourra, pardon pour l'expression, casser du PD toutes les semaines. » Donc, il se relie. Et d'ailleurs, il a un lien, lui, intime avec les Le Pen, puisque c'est Gabriel Lousteau, qui est l'actuel leader du groupuscule héritier du GUD.
Oui, parce que le GUD s'est autodissous, c'est ça ?
Non, il a été dissous.
Il a été dissous.
Dissous tout court.
Ouais.
Il s'était autodissous par le passé, et puis il a été dissous tout court. Mais il s'est recréé sous un
on parlera de la dissolution, parce que c'est intéressant.
Et donc, Gabriel Lousteau, il y a des photos de lui à Montretout, le domicile des Le Pen, parce que son père, Axel Lousteau, a été élu Front National et est un ami intime de Marine Le Pen, et son grand-père est un ami intime de Jean-Marie Le Pen. Donc voilà, il y a une proximité extrêmement forte, alors que c'est un des groupes les plus radicaux de France.
Et vous, à Street Press, dont vous êtes rédacteur en chef Mathieu Mollard, vous êtes appliqué en 2024, au moment de la dissolution de l'Assemblée, à traquer, entre guillemets, ce que vous avez appelé les brebis galeuses du RN. Et la moisson était bonne ?
La moisson était... C'était un troupeau, j'ai envie de dire. D'ailleurs, l'expression brebis galeuse, elle a ses limites, hein. ça laisse parfois entendre que c'est quelques moutons noirs, alors qu'en fait, c'est tout le troupeau qui est contaminé à des degrés divers. Mais au moment des législatives, puis après, on l'a refait au moment des municipales, on a pu identifier des dizaines, voire des centaines de candidats qui soit entretenaient des liens, soit étaient passés par ces groupuscules, soit entretenaient des liens interpersonnels, certaines fois utilisaient ces groupuscules pour faire campagne, y compris en les rémunérant dans certains cas. C'est ce qu'avait révélé ma collègue Daphné Deschamps, qui travaille énormément sur ce sujet-là, je me permets de citer son nom, ou qui, dans le discours, tenait des propos qui ne correspondent pas à la ligne officielle du Rassemblement National, qui tente de présenter une vitrine un peu plus respectable.
Et on a parlé à ce moment-là de purge au sein du RN. Quelles sont les limites, la réalité de ce terme ? Ou la réalité de ce terme ?
Alors,
dans les faits.
Dans les faits, c'est toujours la même histoire. D'abord, il y a deux choses qu'il faut dire. C'est que la stratégie dite de la dédiabolisation, c'est pas Marine Le Pen qui l'a inventée. Jean-Marie Le Pen est déjà une dédiabolisation. La création du Front National en 1972 est une stratégie de dédiabolisation des fascistes. Parce que, et j'utilise le mot fasciste à dessein, c'est des gens qui ont collaboré, qui ont soutenu le fascisme ou le nazisme quand il était au pouvoir et à l'œuvre en Europe, qui justement, après-guerre, pas hyper bonne presse d'avoir été collabo. Donc, ils cherchent une solution pour être un peu plus respectable. Et déjà, ils se disent, il faut qu'on se présente aux élections alors que c'était des partis qui avaient un projet révolutionnaire. C'est pour ça qu'on parle de nationaliste révolutionnaire, c'est prendre le pouvoir par un coup d'État. Mais ils se disent, en se présentant aux élections, on est invité dans les médias, on est plus respectable, etc. Donc, ils se disent, on va créer un parti qui s'appellera Front National, qui sera la maison commune de toutes les extrêmes droites. Et ça, c'est une vieille théorie de Maurras. Et on va chercher quelqu'un d'extérieur à notre mouvance pour le mettre à la tête de ce parti, parce que nous, on est tous collabos, un peu nazis, pas top. Et ils vont prendre quelqu'un qui, dans cette mouvance-là, c'est pour ça que je parle de dédiabolisation, passe pour modérer par rapport à eux. C'est Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, il a déjà été député, il a été le plus jeune député de l'Assemblée nationale. C'était un poujadiste, c'est un peu les Ciotti de l'époque. C'est des gens qui sont à la fois d'extrême droite, mais qui se disent de droite. C'est un peu la frontière avec tout ça. Le Pen, il vient de là et il ne sera pas le premier choix. D'ailleurs, ils vont proposer à 2-3 autres avant. Et puis, ils vont proposer à Le Pen qui va accepter. Sauf que Le Pen, en se disant, on pourra le manipuler. Sauf que Le Pen, il ne se laisse pas faire. Et très vite, il prend vraiment la main sur le parti. Voilà. Mais la stratégie de dédiabolisation, c'est la création du Front National. Et d'ailleurs, le premier article qui chronique ça, c'est un article du Monde qu'on peut retrouver en ligne, dans des archives qu'ils ont remis en ligne. Le journaliste dit, tiens, pour une fois, ils n'ont pas de casque et pas de manche de pioche. C'est bien qu'ils veulent se dédiaboliser. Donc quand on dit Marine Le Pen a inventé la dédiabolisation, rien du tout. Elle a poursuivi la stratégie profonde de son parti.
Mais en même temps, pardonnez-moi de vous interrompre, Mathieu Mollard, ce qui est intéressant de rappeler, c'est que Jean-Marie Le Pen, par ses outrances et par ses dérives racistes et antisémites, s'est régulièrement tiré une balle dans le pied, au point que certains analystes ont dit qu'il ne voulait pas gouverner.
J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse là-dessus.
Donc c'est vrai. A quand même franchi une étape avec Marine Le Pen.
Tout à fait. En gros, au départ, il y avait cette stratégie-là. Les excès, d'un point de vue stratégique, je dis excès, est-ce que ça révèle en grande partie quand même sa pensée profonde. L'ont renvoyé un peu vers les marges, même s'il vient quand même globalement des marges politiques. Et Marine Le Pen est repartie sur la stratégie initiale de dédiabolisation.
En allant jusqu'à rompre
avec son père. Mais pour revenir sur la question des purges, il y a eu des purges au Rassemblement National, même Louis Alliot, le maire de Perpignan, qui a été numéro 2 du parti et compagnon de Marine Le Pen pendant des années, était surnommé Loulou la Purge au sein du Front National. Ils ont viré beaucoup de monde, mais toujours avec une balance. C'est-à-dire, on calcule, est-ce que ce qu'apporte le militant est supérieur au danger symbolique que nous fait encourir son passé radical ? Et on calcule. Et donc, on a des gens qui sont des radicaux, qui sont totalement en place, qui ont eu des passés radicaux, des discours radicaux. Celui qui va être le directeur officieux de la campagne de Marine Le Pen pour la présidentielle, qui est son beau-frère, Philippe Olivier. Philippe Olivier, il a tenu des propos d'une radicalité extrême. C'est un identitaire pur jus, il a tenu des propos extrêmement radicaux. Mais Philippe Olivier, c'est aussi peut-être le meilleur...
Sur les réseaux sociaux en particulier.
Pas seulement sur les réseaux sociaux, oui. C'était même antérieur à ouais. ça, et dans la presse d'extrême droite. Voilà. Et j'ai une anecdote assez drôle à ce sujet, mais en gros, c'est aussi un des meilleurs stratèges politiques du parti. Donc en fait, c'est lui qui va penser la campagne de Marine Le Pen. Donc bon, il est, et puis c'est le mari de sa sœur. Donc ça fait beaucoup d'arguments en sa faveur. Mais aux dernières élections, le Rassemblement National a fait appel à un prestataire de service pour analyser les réseaux sociaux de tous ses candidats aux municipales. Donc ce prestataire, dont je ne connais pas l'entreprise, même si des candidats m'ont raconté, a utilisé un outil, peut-être une IA, pour scanner les comptes Instagram, Facebook, et voir qui ils suivaient, les posts qu'ils avaient faits, etc. Et après, il leur faisait des recommandations. D'abord, ceux qui avaient vraiment les comptes les plus cinglés, ils se faisaient écarter. Et puis, ceux qui étaient OK, mais qui suivaient ici ou là, on leur disait, cette page-là, il faut arrêter de la suivre, parce que ça ne fait pas bien. Et un candidat m'a raconté, on lui a demandé d'arrêter de suivre Élément, qui est le mensuel de la Nouvelle Droite, et il dit, c'est quand même incroyable, on me demande d'arrêter de suivre une page dans laquelle, notamment le beau-frère de Marine Le Pen, écrit, parfois. Donc il y avait une espèce de deux poids, deux mesures, mais en fait il y a des gens qui ont droit de faire certaines choses, parce qu'ils ont un poids politique suffisamment fort, là où ceux qui sont moins haut dans la hiérarchie, on leur dit ils n'ont pas le droit de le faire.
On va faire une petite pause, si vous le voulez bien, Mathieu Mollard, à 9h36 sur Aligre FM. Et on se retrouve tout de suite après pour continuer à parler de cette enquête publiée aux éditions du Commun, Extrême danger, connaître et contrer l'extrême droite radicale, livre dans lequel vous et vos co écrivent, je ne sais plus comment on dit, co-auteurs, merci, pointez notamment du doigt le risque d'un retour du refoulé en cas d'accession du RN au pouvoir, ce qui s'est déjà profilé au moment de l'entre-deux-tours des élections municipales de 2024.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
We'll be right back.
9h40 sur Aligre FM 93.1, vous êtes à l'écoute d'A Voix Libre, présentée aujourd'hui par Nadia Etayeb. A Voix Libre, je vous le rappelle si vous nous rejoignez, c'est un nouveau magazine consacré à l'actualité politique et sociale. Et depuis ce matin, 9h, je suis en compagnie de Mathieu Mollard, qui signe avec Daphné Deschamps, Christophe Cécile Garnier, Nicolas Lebourg et Johan Weiss, un livre intitulé « Extrême danger, connaître et contrer l'extrême droite radicale ». C'est aux éditions du Commun. Mathieu Mollard est rédacteur en chef de Street Press, journal en ligne indépendant qui s'est fait profession d'enquêter sur l'extrême droite et ses ramifications. Mathieu Mollard, j'aimerais qu'on revienne sur la méthode de cette enquête et sur la façon dont, entre journalistes, vous vous êtes répartis les tâches, si j'ose dire. Quels sont vos angles? Est-ce que vous rencontrez les membres de ces groupuscules? Acceptent-ils volontiers de parler en on ou en off? Dites-nous tout sur les coulisses de l'enquête.
Je ne pourrais pas tout dire, mais alors, on est une équipe avec chacun des spécialités ou des points forts. Par exemple, ma collègue Daphné Deschamps, elle est très forte sur l'enquête en ligne. Elle a une culture de cette extrême droite groupusculaire qui est encyclopédique. Et donc, elle les identifie notamment grâce aux réseaux sociaux et, toutes les traces qu'ils peuvent laisser en ligne. Moi, je pense que je connais moins bien ces groupuscules qu'elle. Je n'ai pas cette culture-là. J'ai peut-être une culture plus historique ou encore qu'elle connaît très bien son histoire sur le sujet-là, mais j'essaye de travailler un réseau, des contacts et de les rencontrer le plus possible. Alors, c'est pas facile. Il y a des groupes qui sont très très fermés. Par exemple, on parlait du GUD, le groupe Union Défense. Très difficile. Il m'est arrivé d'avoir quelques contacts avec des anciens militants ou des militants un peu plus âgés. Et je ne donnerai pas leurs identités parce que ça s'est toujours fait en off et c'est de free, souvent de plusieurs années. Je vais les rencontrer à l'occasion d'une manif ou les contacter par les réseaux sociaux, les voir, prendre le temps de les mettre en confiance, de vous garantir aussi que je ne donnerai pas leurs identités ou d'éléments qui peuvent leur permettre d'être reconnus et tisser ce lien qui permet d'avoir des informations. Il y en a d'autres qui vont accepter même de parler en on, d'être cité, alors rarement dans les mouvances néofascistes, c'est plus les identitaires, parce que les identitaires, ils ont une stratégie de communication auprès des médias, donc ils peuvent accepter. Mais j'essaye de les contacter un peu hors actu. Si on vient les voir en disant « Bonjour, j'ai une photo de vous faisant un salut nazi à côté d'un député RN », évidemment, on les met en difficulté. C'est pas le moment où ils ont envie de témoigner ou de raconter des choses, etc. Par contre, si hors actualité, on va aller voir en disant « Bon, j'aimerais comprendre pourquoi vous faites ça, comment vous organisez, etc. » J'ai pas de papier qui sort la semaine prochaine, juste on se parle. Comme en plus, c'est souvent des fidèles lecteurs de Street Press, ben, y a une curiosité et j'arrive à caler un rendez-vous. Ou, des fois, il y a des dissensions aussi dans ces milieux-là. Typiquement, quand, à Reconquête, les proches de Zemmour et les proches de Marion Maréchal Le Pen se sont disputés et ça a amené une séparation, bah là, j'ai appelé les deux. Parce que chacun voulait dire du mal de l'autre. Et donc, c'est le moment de créer, de renforcer des contacts avec ces milieux-là. Et donc, voilà. Et à force de temps, certains acceptent de parler en on. Par exemple, le Galou, je citais tout à l'heure, qui est un des principaux théoriciens et cadres et militants de la mouvance identitaire, sur le livre que je sors fin septembre, il a accepté de parler en on. Alice Cordier aussi, elle a accepté, mais ça a été... Voilà, il a fallu expliquer le projet, mettre un cadre très clair, et tout ça repose, ça peut paraître bizarre, tout le monde sait ma position politique, que je suis contre l'extrême droite, que je la combats et je ne le cache pas auprès d'eux, ce serait hypocrite, ils ne sont pas bêtes, mais... Il y a deux choses, c'est que je tiens ma parole, c'est-à-dire le off, c'est du off. Je leur annonce dès le départ que je suis pas là pour les couvrir, que si j'ai une info qui les mettra dans la merde, elle sortira. Mais par contre, que s'ils me disent ça, je te donne cette info, mais c'est du off, je respecterai le off. Et je serai honnête dans mes propos. Je vais pas déformer ce qu'ils disent, je vais pas... leur attribuer des choses qu'ils n'ont pas faites. Je vais être honnête et rigoureux. Et ça, ça permet de créer une forme de relation de confiance voilà, qui pour moi est la base du métier. Ça peut paraître étrange à pas mal de monde, mais j'ai pris des cafés avec plein de militants d'extrême droite, de plein de courants différents, que ce soit des identitaires, des néofascistes, des royalistes, des catholiques intégristes, des cadres du Rassemblement National, voilà.
C'est la pierre d'angle d'une démocratie en même temps. La question qui me vient immédiatement, évidemment, c'est quel intérêt peuvent-ils trouver à répondre à un journaliste appartenant à un organe de presse ouvertement, qui les combat ouvertement.
Alors, ça dépend des cas. J'en ai parlé, il y a les rivalités. Quand on veut couler un rival, vaut mieux aller voir un média qui va taper fort qu'un média qui va essayer de ménager les différentes tendances. Vaut mieux aller... Enfin, c'est plus Street Press qui va aller couler leurs rivaux que Frontières. Certes, ils vont être plus copains avec Frontières, mais Frontières n'est pas en train de puer des enquêtes sur les groupes de son propre camp. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour eux, comme on est un média de référence sur ces mouvances-là, y compris pour eux, ils nous lisent, ils nous suivent. Des cadres identitaires ou des militants d'extrême droite me disent, je le vois, ils sont abonnés à nos newsletters, nous disent qu'ils lisent presque tous les articles de Street Press, au moins ceux qui parlent d'extrême droite. Et je crois que c'est Eric Tegner qui m'avait dit ça, donc le directeur de Frontières qu'on voit sur CNews régulièrement. Il m'a dit, la force de votre média, c'est que Marine Le Pen vous lit. Je ne sais pas si elle nous lit des fois, elle ne nous lit pas tous les matins, mais ce qu'il voulait dire par là, c'est que quand on publie une enquête, elle a un impact. Le RN a viré des gens parce qu'on avait révélé leur radicalité ou leur lien avec les radicaux. Et donc, on est un acteur de ce jeu dont ils font partie. Donc, ils en tiennent compte. Et donc, ils acceptent de nous rencontrer. Et parfois, c'est presque une forme de reconnaissance, même s'ils l'assumeront et ne le diront jamais comme ça. Et puis, certains apprécient le fait qu'on ait une culture de cette mouvance, de ces nuances, qui parfois ils ne retrouvent pas dans leur propre camp. Alors, il y en a dans leur propre camp qui ont cette culture-là, hein, mais quand j'utilise le mot fasciste, je parle d'un courant précis d'extrême droite. Je ne l'utilise pas comme un mot valise pour dire toutes les extrêmes droites, comme d'autres que je respecte, hein, qui sont dans une démarche peut-être un peu plus militante, qui vont dire, voilà, toutes les extrêmes droites, c'est du fascisme. Moi, nous, on essaye, et c'est ce que fait ce livre, c'est d'ajouter, de donner de la précision.
Et de la nuance.
Et de la nuance. Donc, ça, certains l'apprécient. Et j'ai plusieurs cas de gens qui vont me parler en off, puis on va publier l'article, ils vont dire « Mais quel article dégueulasse, c'est absolument scandaleux !» Il y a aussi un double jeu, des fois, de gens qui nous fournissent des infos, puis après qui disent « Non, mais vraiment, c'est ça le gauchiste qui a publié ces infos-là, c'est scandaleux !» Alors que c'est eux qui nous ont donné. Parfois sur eux-mêmes.
Alors Mathieu Mollard, l'émission approche de sa fin, malheureusement, pour un sujet qui est sans fin. Je voudrais qu'on soulève deux questions. Je voudrais soulever deux questions. D'abord, celle des chiffres. En 2004, la Direction centrale des renseignements généraux parlait de 2500 à 3500 militants. Aujourd'hui, a-t-on une idée des chiffres ? Est-ce que ces chiffres
sont en augmentation ? Vous écoutez Allegre FM
93.1. Est-ce qu'il y a plus de visibilité des actions militantes ou violentes liée justement à l'entrée du RN sur l'échiquier politique avec de fortes chances d'accéder au pouvoir.
Je vais choisir une autre option, ces chiffres étaient déjà faux au départ. En fait, ils sont faux parce que, ils sont à mon sens sous-estimés, parce que les services de renseignement s'intéresse à qu'un petit bout de cette extrême droite extra-parlementaire qui sont les militants actifs dans des groupuscules, de manière régulière, etc. Alors qu'en réalité, cette extrême droite radicale, elle a un vivier plus large que ça. On a des indicateurs objectifs qui nous permettent de le mesurer. Par exemple, aux élections européennes, il y a souvent des listes qui sont présentées, qui sont des listes Je pense à Forteresse Europe. C'est une liste qui a été menée par des néo-fascistes. Ces listes-là, elles n'ont même pas de bulletin de vote sur les tables quand on va dans les bureaux de vote. C'est-à-dire que pour voter pour Forteresse Europe aux élections européennes, il faut à la maison imprimer son bulletin de vote, l'amener au bureau de vote et dans l'isoloir mettre ce bulletin de vote, mais il est compté. Et on voit que le nombre de votes de gens qui ont quand même fait cette démarche, qui est quand même pas... Faut anticiper pour aller voter pour des néo-fascistes. Et ben, il est déjà supérieur aux chiffres des services de renseignement. Et on sait que cette mouvance-là ne vote pas dans son ensemble. Donc, c'est des indicateurs qui nous montrent qu'en fait, la mouvance d'extrême droite radicale, elle est plus large que ça. Il existe aussi tout un tas de militants, une nouvelle forme d'activisme. Alors, je vais passer de militantisme à activisme, qui sont des gens qui sont présents sur des canaux Telegram, sur des forums Discord, qui vont avoir un discours très radical, un activisme en ligne, et qui de temps en temps vont basculer dans une action violente de terrain, et qui ne sont pas forcément adhérents de groupuscules. Ces groupuscules, c'est finalement l'héritage aussi d'un vieux monde, qui est en plein changement. Dernière chose, si on prend les projets d'attentats terroristes d'extrême droite en France.
J'allais y venir, alors vous anticipez ma question, c'est très bien.
Les projets d'attentats ne sont pas le fait de groupuscules, au sens de ces groupuscules-là qui sont dans le livre Extrême Danger. Dans le livre Extrême Danger, on a des groupes militants qui font de la politique, y compris par des actions violentes. Ça peut être des agressions de militants du camp opposé, etc. Mais... En France, aujourd'hui, c'est pas généralisable, il y a eu des périodes où c'était différent, c'est pas eux qui ont des projets terroristes. Les projets terroristes en France, ils sont le fait de gens qui se sont rencontrés en ligne, quasi exclusivement, ou de personnes isolées, qui, pour la plupart, ne sont pas passés par des groupuscules, certains, mais de manière assez brève, et en tout cas, c'est pas un groupe qui, de manière collective, se dit « les gars, qu'est-ce qu'on fait cette année? On fait un attentat ». C'est pas ça. C'est des gens qui se rencontrent sur des forums, qui disent voilà, il y a un problème, qui sont nourris par la propagande de ces groupuscules, qui peuvent pour certains être passés temporairement dans ces groupes où ils ont découvert des modes d'action violents, mais qui vont après monter leur propre cellule terroriste et prévoir de faire des attentats. J'ajouterais qu'ils sont souvent assez âgés. Les projets terroristes d'extrême droite en France, et pas des projets massivement menés par des vingtenaires, comme on peut le projeter, l'imaginer, comme c'est plus le cas aux États-Unis, où les attentats commis par l'extrême droite américaine sont plutôt le fruit de jeunes. En France, on a des retraités qui font partie de cellules terroristes ou proto-terroristes qui projettent des attentats.
Alors, une dernière question, Mathieu Mollard. C'est celle de la dissolution, en fait. Pour ou contre, les historiens sont parfois partagés sur cette question. Nicolas Lebourg, qui fait partie des co-auteurs du livre, a un avis très nuancé sur le bien fondé de la dissolution. Erwan Lecoeur, qui a accordé plusieurs interviews, notamment sur Radio France, lui pense que c'est une erreur. Parce que qui dit dissolution dit reconstitution et surtout empêche la surveillance de ces groupuscules par les renseignements généraux.
Oui, je partage. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une erreur dans tous les cas. Mais je pense que dans 80% des cas, c'est une erreur et c'est un affichage politique en réalité. Et en gros, la question, c'est pourquoi on dissout ? Quand il y a des groupes qui ont une dérive ultra-violente. Il y a des groupes dont on a peu parlé, qui ont été dissous. Je pense à Combat 88, Blood and Honor, qui étaient des groupuscules qui comptaient peu de membres, mais on a trouvé des calages dans leur cave. On dissout. Il n'y a pas de débat. Ça permet de donner des arguments juridiques pour qu'ils aient plus à se fréquenter, etc. Ça peut avoir une utilité. Ensuite, je pense que c'est... d'un point de vue démocratique, pas forcément une bonne idée, mais ça peut avoir une efficacité pour une marque nationale qui est en train de s'imposer. Typiquement, Génération Identitaire. Génération Identitaire, ils avaient des sections dans une bonne partie des régions françaises. Ils arrivaient à recruter, ils grandissaient. Voilà. Le fait, la dissolution a eu un impact. Ça a tué Génération Identitaire. Donc, effectivement, ça a été efficace. Après, si on dissout une organisation comme Génération Identitaire sur des bases juridiques que je trouve un peu douteuses, aussi, on crée des précédents juridiques qui se retournent contre la gauche. Aussi, parce que on a baissé le niveau d'exigence pour arriver à une dissolution. Donc ça, c'est un peu dangereux d'un point de vue juridique. Et après, en fait, ce qui se passe, c'est que les dissolutions, c'est souvent une réaction à un fait divers, à un fait médiatique. On annonce une dissolution pour dire, pour que le politique dit comme ça, il fait quelque chose. Et puis en plus, comme il veut équilibrer, il tape une fois à gauche, une fois à droite en ce moment. C'est la grande molle. On annonce en même temps la dissolution d'un groupuscule d'extrême droite et d'un groupuscule d'extrême gauche. Donc moi, je trouve que dans tous ces cas-là, ça ne marche pas trop. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'on a du mal à les surveiller, plus de mal. Et ils sont moins canalisés. Il y a aussi des groupes, et notamment dans les groupes radicaux, je pense notamment à Troisième Voie, qui était le groupe géré par Serge Ayoub, qui était le principal organisation skinhead en France. C'était des nazis, clairement, des néo-nazis. Il n'y a aucun débat là-dessus. Mais je pense qu'ils faisaient paradoxalement moins de mal quand ils étaient à Troisième Voie que quand après la dissolution de Troisième Voie. Alors cette dissolution, elle a eu lieu après la mort dramatique de Clément Méric, tué par des militants de Troisième Voie. Il y a eu une autodissolution, puis une dissolution, bon, on s'en fout. Mais, en fait, Ayoub, il les faisait marcher au pas, il faisait la sécurité de son bar, il les traitait comme ses larbins, il leur donnait des ordres, etc. Mais quand il faisait ça, ils agressaient moins souvent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'agressaient pas. Hein. Mais, voilà. Donc, ça peut être à double tranchant. C'est paradoxal, mais ça peut être à double tranchant.
Merci Mathieu Meulard d'être venu ce matin au micro d'Aligre FM
parler
de ce livre Extrême danger, connaître et contrer l'extrême droite radicale. C'est aux éditions du Commun. On n'a pas eu le temps d'aborder un certain nombre de sujets dont...
Je parle trop, désolé.
Non, mais c'est très bien. Mais dont la présence au sein de l'armée ou de la police nationale de membres parfois violents du RN ou en
et
tout
avec
cas...
avec la tolérance de la hiérarchie qui est au courant.
Alors voilà, en tout cas, l'affaire de Carcassonne, ce policier qui n'a pas vu que sa caméra tournait et a enregistré des propos d'une rare violence, pose question. Vous viendrez en parler peut-être au micro d'Aligre FM, en même temps que du livre que vous publiez prochainement aux éditions Divergence, qui sortira le 25 septembre. Ça s'appelle « Au nom des Blancs ». Merci beaucoup.
Merci.
À voix libre, c'est terminé pour aujourd'hui. Restez à l'écoute dans quelques instants. Je vous retrouve pour le magazine littéraire Au fil des pages. Un peu de poésie dans ce monde inquiétant.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.